Une guerre de l'eau aura-t-elle lieu ? Cet été, 70% de la France a fait l'objet de mesures pour restreindre l'usage de l'eau. La faute à la sécheresse et aux canicules engendrées par le dérèglement climatique, la situation est donc vouée à durer. Et les conséquences sont déjà là. Des robinets coupés, des interdictions d'arroser ses plantes ou de laver ses voitures, mais aussi des agriculteurs à la peine. Dans la deuxième partie de cet épisode, je reçois une agronome spécialiste de l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Elle me détaille ce à quoi ressemblent des cultures privées d'eau, avec une spécificité cette année. Beaucoup de nos voisins européens sont concernés, impossible donc de se reposer sur leurs réserves. Toutefois, me dit mon invité, il y a des solutions. Cultiver autrement et cultiver d'autres espèces. Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue.
Cette mère de famille vient juste d'arriver sur son lieu de vacances.
Reportage dans un camping en France en ce début du mois d'août 2026.
Madame Martin, j'ai une réservation.
Après quelques vérifications, place à la distribution de ces bracelets bleus. Car ici, l'utilisation de la douche est chronométrée.
Ça, c'est les bracelets pour la douche.
D'accord.
Vous avez deux douches par jour de 7 minutes de coulée d'eau.
La sécheresse est telle que ce camping de l'île d'Oléron a décidé de rationner l'eau.
La France est à sec. Il n'y a qu'à regarder une carte satellite de l'Hexagone, tout est jaune. Le lac d'Annecy, lui, perd 1 cm chaque jour. Oui, parce qu'en plus, il fait chaud. L'Office français de la biodiversité lance l'alerte le 1er août. Les rivières sont frappées par une sécheresse historique, la plus critique jamais enregistrée à cette période. Plus de 1300 cours d'eau sont touchés par des ruptures d'écoulement ou carrément asséchés. C'est 1 sur 4. Une situation qui dépasse la sécheresse historique de 2022 et qui est deux fois plus sévère que celle de 2025. Et si les cours d'eau sont à sec, c'est parce que les sous-sols sont vides. L'été, ce sont en effet les nappes phréatiques qui renflouent les rivières. Mais ces derniers mois, la France a connu 5 épisodes de canicule, de la chaleur qui renforce l'évaporation des plantes. Résultat, les végétaux puisent de l'eau dans les sols, sans compter que les volumes prélevés par les humains dans les nappes et les rivières augmentent eux aussi pendant l'été.
Cette sécheresse, elle n'est pas due à un déficit de pluviométrie.
Olivier Blon est délégué spécial à la santé environnementale d'Île-de-France.
Il pleut toujours quasiment autant. Par contre, il fait tellement chaud que ça s'évapore beaucoup plus. Et donc, c'est ça qui fait la sécheresse. Et cette pluie qui nous manque là actuellement, en fait, on la retrouve pendant l'hiver. Et on a cette situation paradoxale que pendant l'hiver, on va avoir des inondations, des excès d'eau qui sont tout aussi dommageables pour nos sociétés, avec des crues, avec des inondations. Mais on a un bilan qui est globalement presque neutre. Ce qui se passe, c'est qu'on a trop d'eau quand on n'en a pas besoin et pas assez quand on en manque.
Pour les habitants de plusieurs villages français, la sécheresse se traduit très concrètement.
Cela signifie que pour plus de 40 000 personnes, la sécheresse se traduit déjà par des coupures d'eau au robinet.
La ministre de la Transition écologique, Monique Barbu.
La semaine dernière, l'approvisionnement de plus de 550 000 habitants était ainsi considéré comme étant en tension. Et l'approvisionnement de près de 3 millions d'habitants placé en vigilance.
Mais alors, comment éviter la coupure d'eau ? À Villars-Saint-Sauveur, près de Saint-Claude dans le Jura, le maire a dû trouver la parade pour que les robinets de ses 580 administrés continuent de couler. Il fait venir de l'eau en camion pour remplir la cuve avec l'eau du village voisin.
La source qui alimente ce réservoir est bloquée, est arrêtée. Et donc, on est obligé de remplir le réservoir puisqu'on n'a aucune liaison extérieure avec ce réservoir. On est obligé de le remplir avec des citernes d'eau. On fait deux voyages de 2 x 16 mètres cubes. Et ça va nous coûter, en plus du prix de l'eau, mais au prix du voyage, c'est 1500 euros l'après-midi. Quoi. Location du camion, monter l'eau, et voilà. Et l'eau facturée en plus.
C'est pas rien.
C'est pas rien, non. Ça fait mal. Surtout que c'est la première intervention de l'année. Et il y en aura d'autres.
Au 10 août, les autorités restreignent les usages de l'eau potable dans 99 départements pour préserver les nappes et les rivières. Remplissage de piscines interdits, arrosage des pelouses ou lavage de voitures prohibés. Pour les 67 départements au niveau crise, l'eau est réservée aux usages prioritaires. Santé, sécurité civile, eau potable, salubrité. C'est notamment le cas dans le centre et l'ouest du pays. Les sols y sont en granit et retiennent donc difficilement l'eau. Ils sont particulièrement à sec. Le 12 août, ce sont les centrales nucléaires qui font les frais de la sécheresse. Sur les 57 réacteurs du parc français, 13 sont à l'arrêt ou fonctionnent à vitesse réduite, ce qui fait 20% de production électrique en moins, et c'est en partie la faute à l'eau des rivières, trop rare et trop chaude pour refroidir les centrales. Mais s'il y avait un secteur à retenir particulièrement mis à mal par la sécheresse, ce serait l'agriculture. Maurice Andral est producteur, vice-président de l'AOP nationale Prune.
Nous avons les prunes maintenant qui ne tiennent plus parce que nous avons un manque d'eau. Tout ça qui est jaune, bon, mais tout ça c'est vraiment un mort. Ça sera invendable que normalement on devrait avoir une prune complètement bleue comme ça. Tout ce qui est jaune, là, c'est cramé, ça va pourrir. Ça veut dire que tout cela va être écarté au triage. Et pour moi, cela va représenter grosso modo 30 à 40% de perte.
Et même les élevages sont concernés, car il faut nourrir les bêtes. Frédéric Reynaud est éleveur de vaches laitières. À Saint-Clément-les-Places, c'est dans le Rhône.
C'est une prairie de 2 ans, donc normalement, il y a des trèfles et des régrans. Et ben là, il n'y a même pas à manger pour des vaches taries. Quoi.
Cet éleveur doit donc déjà piocher dans ses réserves de l'hiver.
Elles ont du maïs à peu près toute l'année, à petite dose. Donc à autour de 20 kilos par tête. Mais cette année, il n'y a plus de pâture. Donc on a monté à 32 kilos. Et 25 kilos d'ensilage d'herbe, ration d'hiver.
Il a déjà consommé 30 bottes de foin et presque tout ce qu'il avait de maïs.
Normalement, le maïs, il devrait être 10 mètres plus en avance. Là, on a tapé carrément dans les stocks. Quoi. Du coup, j'ai racheté 100 tonnes de maïs à un voisin. C'est un coût supplémentaire de 8-10 000 euros. Quoi.
Bonjour Marie Launay.
Bonjour.
Vous êtes agronome, directrice adjointe de l'unité Agroclim à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Vous travaillez donc sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture. On a entendu dans le récit les conséquences de ces sécheresses et de ces canicules sur le monde agricole. La spécificité de cette année, c'est que personne n'est épargné sur l'ensemble du territoire français.
On a affaire à une situation qui est à la fois extrême et inédite, mais qui a de fortes chances de se reproduire de plus en plus fréquemment dans les années et les décennies à venir, puisque c'est une situation qui avait 80 fois plus de chances de se produire si on n'avait pas eu de situation de changement climatique. Du fait à la fois d'un manque de pluie et des températures élevées qui font que le sol agricole s'assèche beaucoup plus vite.
Quelle quantité d'eau est-ce qui manque aux agriculteurs aujourd'hui ?
Alors là, on a regardé depuis le 1er avril, qui est à peu près une date moyenne de semis des cultures de printemps, on a en France, on a reçu en pluie, en moyenne sur toute la France, 174 mm. Au 15 août. Donc en gros, on devrait avoir atteint 300 mm et on n'en a cumulé que la moitié.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 50% de récoltes en moins, des récoltes 50% moins bonnes ou alors qui arrivent à d'autres moments pas prévus, par exemple plus tôt. Quelle est la traduction dans les faits, dans les champs en fait ?
Alors, il y a plusieurs effets et qui sont différents selon les types de cultures. D'abord, les cultures qui ont été semées à l'automne dernier, le blé, l'orge, les cultures d'hiver, elles ont bénéficié de pluies relativement correctes et des premières canicules et des premiers effets de la sécheresse, mais juste avant d'être récoltées et moissonnées. Donc là, les impacts sont moins importants que sur les cultures de printemps, c'est-à-dire celles qui ont été semées en mars, avril, mai au plus tard en France, comme maïs, betterave, et qui, elles, subissent la sécheresse de plein fouet, puisqu'elles ne sont pas encore récoltées.
Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des étals de marché différentes à la rentrée par rapport à ce qu'on aurait pu attendre l'année dernière, par exemple ?
On a déjà des choses un peu différentes aussi sur les cultures fruitières et légumières. On a aussi un gros problème de sécheresse pour les élevages, parce que en France, la moitié de la surface agricole, ce sont des prairies. Et donc, ces prairies servent à alimenter le bétail. Et aujourd'hui, les prairies ne poussent plus du fait de la sécheresse. Donc, certains éleveurs sont obligés déjà de puiser dans leur stock de foin qui était prévu pour l'hiver prochain.
On risque de manquer de nourriture dans les prochains mois ou alors avoir à s'approvisionner ailleurs ?
S'approvisionner ailleurs, on le fait déjà pour pas mal de cultures. Ce qu'il y a, c'est que la sécheresse qu'on vit actuellement en France, on la vit aussi dans d'autres pays européens. On va voir comment ça évolue dans les semaines à venir. Une façon de pallier à ce problème d'approvisionnement, ça va être aussi de diversifier non seulement l'origine de nos apports, mais aussi ce qu'on va mettre dans nos assiettes.
Il y a certains produits qu'on va devoir s'habituer à moins consommer, à ne plus consommer.
C'est possible, je saurais pas dire, mais rappelez-vous, il y a quelques années, on avait eu des soucis avec des approvisionnements en moutarde du fait justement de problèmes de canicule et de sécheresse. L'idée de produire de façon plus diversifiée et dans divers endroits permettrait peut-être de pallier à ça.
C'est-à-dire des productions qu'on avait l'habitude de faire dans le sud du pays, les remonter plus au nord?
Oui, c'est déjà le cas. Hein. Les agriculteurs adaptent déjà leur façon de produire.
Ça veut dire qu'on va voir des vignes à Lille, les productions sont interchangeables géographiquement?
Non, tout n'a pas une solution, non, malheureusement. Mais il y a déjà des productions, par exemple, de thé en France, dans différents territoires. Il y a des productions qui réapparaissent, comme le pistachier, qui est bien adapté. Mais après, on ne va pas manger que de la pistache non plus. Voilà, donc il faut diversifier nos cultures.
Et apprendre à cultiver avec moins d'eau, vous l'avez dit. Ces sécheresses, elles sont durables vu le dérèglement climatique. On entre dans une guerre de l'eau dans laquelle les agriculteurs vont devoir se priver en partie de la ressource.
Il y a la question de la ressource et il y a la question des usages aussi. Alors, la question de la ressource, elle a été bien mise en évidence par un rapport de l'ONU qui est paru là en janvier 2026 sur la faillite de l'eau, qui mettait en évidence que plus ça allait, plus on puisait dans des réserves qui avaient été longues à mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est comme si on utilisait notre compte épargne pour nos besoins quotidiens. On puise dans les nappes phréatiques, on puise dans les lacs, peu à peu, ça sèche. Donc, au niveau mondial, il y a non pas une crise de l'eau, mais une faillite de l'eau. Donc, il va falloir effectivement travailler sur la ressource et en faire meilleur usage. Et dans ces usages, on peut travailler sur la façon de mieux irriguer, sur la façon d'améliorer les propriétés de nos sols pour qu'ils stockent mieux l'eau, sur notre façon de produire en cultivant des espèces qui sont soit moins gourmandes, soit qui sont complémentaires entre elles sur l'usage des ressources.
Par exemple, qu'est-ce qu'on peut cultiver qui soit plus viable vu le manque d'eau?
On peut se tourner vers des espèces qui vont avoir par exemple un système racinaire plus profond ou qui vont moins transpirer. Mais ce qu'on peut aussi, c'est associer des espèces.
On les connaît?
Oui, on les connaît. On travaille à la fois sur la diversité génétique au sein des espèces, c'est-à-dire on va chercher des variétés qui sont plus résistantes à des stress hydriques et à d'autres stress, hein, parce que ce n'est pas le seul stress auquel les cultures font face aujourd'hui et vont faire face dans le futur. Mais on peut travailler aussi sur la diversité génétique entre espèces et on peut associer des espèces. En agroforesterie, la présence d'arbres, elle va avoir plusieurs effets bénéfiques. À la fois, elle va permettre au sol de mieux retenir l'eau, éviter l'érosion, par exemple. Mais la présence d'arbres va aussi apporter de l'ombrage aux espèces qui sont cultivées en dessous. Et de ce fait, ces espèces-là, elles seront moins soumises au rayonnement, aux températures élevées, elles vont moins transpirer, elles vont mieux garder leur eau.
Merci Marie-Launay d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Bah, je vous en prie.
Et je précise que ce lundi 17 août, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé une série de mesures pour aider le monde agricole, notamment 6 millions d'euros pour relancer la production. Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast, à Léonie Guilbeault qui m'a aidé à le préparer, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À demain.